la compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série consacrée à un écrivain et dramaturge dont l'œuvre s'avère sans âge, Marivaux. Une semaine débutée lundi par un panorama de l'œuvre et de la vie de Marivaux, dont on sait d'ailleurs peu de choses. Une vie d'écriture et sans doute aussi d'observation de ses contemporains, chez qui il savait repérer les plus infimes nuances dans le comportement, en particulier amoureux. Une semaine poursuivie mardi par une émission sur le Marivaux romancier, notamment l'auteur de La vie de Marianne, dont nous a parlé Christophe Martin, suivi de l'analyse de Jacques Guillambé, pour qui Marivaux est avant tout un auteur du concret, ce qui n'est pas évident pour un écrivain dont on a surtout souligné la préciosité, la finesse, la légèreté et le peu d'intrigue figurant dans ses romans. Hier, nous sommes revenus plus en longueur sur le théâtre avec le metteur en scène Jacques Lassalle. Et puis aujourd'hui, nous allons mettre en regard Marivaux et le Loft, cette déjà ancienne émission d'M6 qui avait tant fait parler d'elle au début des années 2000 en inaugurant la télé-réalité en France, télé-réalité dont les principes se retrouvent peut-être bien dans certaines pièces du dramaturge, nous le verrons en tous les cas, la dispute en particulier, c'est Catherine Henry qui nous dira pourquoi dans la seconde partie de cette émission. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Sermin, il est professeur de lettres à la Sorbonne et auteur notamment de l'essai Marivaux et la mise en scène. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
C'est contemporain dans une certaine mesure, dans la mesure où lui-même fait un discours délicat, un discours fragile selon moi, sur la qualité des comportements, sur la façon qu'ont les gens de vivre, sur les façons qu'ont les gens de ne pas savoir vivre par exemple, où lui-même selon moi annonce d'une façon très lointaine comme ça, tout le libertinage annonce un peu, enfin où lui-même participe d'une culture qui est la culture, peut-être le moment culturel le plus important qu'on a eu en France, qui est le 18e, enfin je veux dire. Et dans cette mesure-là, il y a un discours, encore une fois fragile, encore une fois peut-être aristocratique à tenir, mais il y a un discours qui m'intéresse vraiment.
Bonjour Jean-Paul Sermin. Alors Patrice Chéreau, qui soulignait dans cette archive que c'était pour lui que le théâtre de Marivaux, et il disait que c'était un discours fragile sur la façon qu'ont les gens de savoir vivre ou au contraire de ne pas savoir vivre. C'est une belle archive. Est-ce que vous diriez la même chose que Patrice Chéreau?
Je dirais volontiers la même chose puisque j'ai beaucoup aimé ces mises en scène. Et la singularité de Marivaux, c'est d'observer ses savoir-vivre ou ses non-savoir-vivre dans le champ de l'amour. Et c'est peut-être ça qui nous intéresse aujourd'hui et qui explique au fond l'actualité de son théâtre et de la vigueur des mises en scène actuelles.
L'actualité jamais démentie et qui ne se démentira jamais, on jouera toujours Marivaux.
Enfin, disons qu'on l'a joué de façon ininterrompue depuis qu'il a donné ses pièces, oui.
Alors, observateur, comme le sont les journalistes, ça me permet de parler un petit peu avec vous d'un pan de Marivaux que vous connaissez bien, qui est le Marivaux journaliste, mais il ne faudrait pas croire, effectivement, qu'il rédigeait des papiers dans un journal quotidien. Le Marivaux journaliste, ça n'est pas du tout le journalisme tel qu'on l'imagine aujourd'hui, évidemment.
Non, il s'est inspiré d'un vrai journal qui était le Spectator de deux auteurs anglais, Addison et Steele, au début des années 1710. Et vers 1720, quand il décide d'abandonner une profession sage d'avocat, il au fond, il fait deux expériences parallèles, celle du théâtre et de la comédie, et puis celle des journaux. Alors, par journaux, il faut plutôt entendre des... l'idée, c'est que c'est périodique, c'est-à-dire que c'est une petite feuille qui ressemble donc à une feuille de journal, qui a la date du jour. Et ça, c'est très important parce que Marivaux, dans ses journaux, reprend un petit peu la matière des observations morales. Il y a aussi toute une série de petites anecdotes, ce qui s'apparenterait aujourd'hui à des nouvelles. Et simplement, elles sont indexées sur la date du jour et elles sont présentées à travers le regard et la plume de quelqu'un qui est dans la société. C'est l'idée de... reprendre un peu les observations morales, les réflexions sur la société, sur ce que Marivaux appelle le cœur, mais en se plaçant à l'intérieur de la société et en adoptant le point de vue de quelqu'un qui est dans la société et qui réagit à ce qu'il observe dans l'actualité, c'est-à-dire sur le moment.
Mais donc c'est de la fiction ?
Alors, il y a une sorte de médiation fictionnelle, puisque c'est un personnage qui est inventé par Marivaux, qui est bien distinct de lui, hein, puisqu'il le présente comme un misanthrope, et Marivaux n'est certainement pas favorable à la misanthropie. Il y a une sorte de paradoxe dans ce personnage du journaliste misanthrope, mais c'est parce que, pour observer, en quelque sorte, il ne faut pas être soi-même passionnément engagé. Il y a une sorte de distance, qui est la distance du journaliste, que vous connaissez. Et donc, c'est un filtre qui est en quelque sorte fictif, mais ça, en même temps, observer la réalité. C'est-à-dire que... on le verra aussi au théâtre, c'est une articulation entre des dispositifs, on pourrait dire littéraires, fictifs, pour essayer d'observer la réalité.
Et cette réalité, c'est les événements de la cour, ce sont les débats l'actualité.
Alors, c'est parfois l'actualité immédiate, mais de façon, on va dire, un peu secondaire. Hein. Il y a quelques éléments d'actualité, mais c'est plutôt l'actualité dans le sens de la rue parisienne, les façons de vivre, la façon dont les hommes et les femmes flirtent, etc. Donc, c'est plutôt une observation sociale, c'est plutôt l'actualité sociale et culturelle et littéraire que l'actualité politique qui intervient très peu.
Et comment il travaille ça? Du coup, il fait du reportage, entre guillemets? Est-ce qu'il se déplace?
Non, alors je crois que ce qui a intéressé Marivaux avec ses petites feuilles, puisqu'il les appelle lui-même des feuilles volantes, c'est la possibilité d'improviser ou tout au moins pour chaque feuille, d'avoir une situation d'écriture et une invention en quelque sorte immédiate. Je crois que c'est ça qui a beaucoup.
Donc il travaille le style peut-être moins. C'est un comme un atelier pour lui, comme des brouillons aussi pour.
On pourrait appeler ça atelier et brouillon, mais brouillon serait un petit peu sévère parce que vu la qualité des textes, ça serait des brouillons de génie. Et c'est plutôt cette possibilité. Il le dit lui-même au début. Il ne veut pas s'engager dans un plan parce qu'il pense qu'un plan paralyse l'écrivain puisque on remplit son plan. Et le journal lui permet justement de rebondir, d'avoir une sorte de créativité qui se renouvelle à chaque numéro, hein, puisque les numéros sont pratiquement indépendants. Enfin, il y a des séries de numéros et quand il y a une histoire qui se déroule sur 2-3 numéros. Mais on peut dire que même dans cette histoire, il se donne la liberté de prendre une voie de traverse et puis de ne pas achever l'histoire et puis de passer à autre chose. Il passe à autre chose. Voilà.
Et ça vous semble important dans son œuvre ou est-ce que... Bon, alors évidemment, vous avez écrit un livre, donc pour vous, c'est important. Mais est-ce que ça sert vraiment l'ensemble de l'œuvre ou est-ce que pour vous c'est quand même un petit peu anecdotique?
Chez un grand écrivain, peut-être il n'y a pas trop d'anecdotique, mais ça préparait plus directement, comme Christophe Martin l'a dit l'autre jour, les deux grands romans finaux de Marivaux et presque trois romans, puisqu'il y a un roman qui est double. Ça nourrit véritablement. Enfin, c'est parallèle au théâtre, c'est-à-dire qu'on voit que il aborde les mêmes questions en étant très sensible aux moyens littéraires dont dispose l'écrivain. Et le théâtre permet d'appréhender cette expérience de la vie sociale et de l'amour par des moyens propres. Et le journal, ce sont d'autres moyens.
Le théâtre, justement, le voici.
Faut aller dire à Lisette qu'elle vienne. Damis serait un étrange homme si cette lettre-ci ne rompt pas le projet qu'on fait de nous marier. Ah, te voilà, Lisette. Approche. Je viens d'apprendre que Damis est arrivé hier de Paris, qu'il est actuellement chez son père. Et voici une lettre qu'il faut que tu lui rendes, en vertu de laquelle j'espère que je ne l'épouserai point.
Comment, madame? Cette idée-là vous dure encore? Non, je ne ferai point votre message. Damis est l'époux qu'on vous destine. Vous y avez consenti, tout le monde est d'accord. Entre une épouse et vous, il n'y a plus qu'une syllabe de différence. Et je ne rendrai point votre lettre. Vous avez promis de vous marier.
Oui, par complaisance pour mon père, il est vrai. Mais y songe-t-il? Qu'est-ce que c'est qu'un mariage comme celui-là? Ne faudrait-il pas être folle pour épouser un homme dont le caractère m'est tout à fait inconnu? D'ailleurs, ne sais-tu pas mes sentiments? Je ne vais point être mariée si tôt et ne le serai peut-être jamais.
Vous? Avec ces yeux-là? Je vous en défie, madame.
Quel raisonnement! Est-ce que des yeux décident de quelque chose?
Sans difficulté.
Parlons donc un peu de théâtre Jean-Paul Sermin et de mise en scène en particulier, car si Marivaux n'a pas été metteur en scène, on ne parlait pas encore d'ailleurs du metteur en scène au XVIIIe siècle, il a en revanche écrit, dites-vous, en metteur en scène. Et ça, c'est la thèse de votre livre, Marivaux et la mise en scène. Qu'est-ce que ça signifie d'écrire en metteur en scène?
Alors, dans ce livre, je commence par Molière. Et Molière a aussi écrit en metteur en scène, hein, puisque on voit bien combien la réalisation scénique est essentielle dans les pièces de Molière. Mais Marivaux, lui aussi, comme tous les auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, écrivent pour la scène, c'est-à-dire que les pièces sont d'abord jouées avant même d'être imprimées. Il écrit pour la scène dans ce sens que j'essayais d'exposer. C'est le face-à-face des personnages, c'est la confrontation de plusieurs personnages à la fois, hein, puisque le couple, en fait, est toujours double, c'est-à-dire
le couple
qu'il y a quatre personnes.
Amoureux.
J'appelle ça une partie carrée, on est quatre quand on croit être deux. Hein. Donc c'est l'interaction, la confrontation, le dialogue et la présence face à face, hein, c'est ce type de possibilité que donne le théâtre, qu'utilise Marivaux pour représenter, hein, comme a dit Patrice Géraud, la manière dont les hommes vivent ou mévivent ensemble.
Et ça, c'est une rupture dans la tradition théâtrale. Vous parlez de Molière. Il est quand même un peu dans la descendance de Molière, mais pas complètement.
Alors, il est dans la descendance de Molière parce qu'il reprend certains personnages comme le libertin ou le Tartuffe. On trouve chez Molière des disputes amoureuses aussi de grande, en fait, d'une grande fraîcheur, d'une grande force. Mais Marivaux, je crois, est fondamentalement différent parce que au fond, il donne la place à l'invention, à l'improvisation des personnages. C'est-à-dire, bien sûr, ces pièces ne sont pas improvisées puisque lui-même écrit le texte, mais les personnages sont mis dans une situation d'improvisation dans le croisement des regards, dans le face-à-face, dans ces confrontations où il y a à la fois le partenaire et quelqu'un qui est à côté, qui observe, qui est rival, etc.
Donc c'est sur scène qu'il doit se passer quelque chose.
Voilà, c'est sur scène qu'il se produit quelque chose, et il se produit quelque chose dans les sentiments. Donc il y a quelque chose de profondément paradoxal, et c'est peut-être le génie de Marivaux, c'est que le théâtre, c'est... Les personnages sont réduits à ce qu'ils disent, donc aux échanges conscients, à la parole, alors que le roman peut analyser la vie intérieure. Mais Marivaux se sert de ce dialogue théâtral pour que les personnages eux-mêmes réagissent à leur vie, à leurs émotions, aux émotions des autres, et ainsi les rendre sensibles aux spectateurs.
Et vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Marivaux et de la manière dont Marivaux met en scène dans ses textes, ou pense en tous les cas, la mise en scène qui va plus tard se produire. Est-ce qu'on sait si il assistait lui-même, du coup, beaucoup aux répétitions, s'il dirigeait d'une manière ou d'une autre les acteurs? Parce que ce qu'on sait, en revanche, Jean-Paul Sermin, c'est que dans ces didascalies, il n'y a pas de direction d'acteur qui soit très très précise.
Alors, c'est conforme à l'époque, il y a relativement peu d'indications, mais comme dans le théâtre du XVIIe siècle, les indications, en quelque sorte, sont impliquées par le dialogue. C'est-à-dire le dialogue oblige à des indications, et je crois que Marivaux nous, en quelque sorte, impose un certain nombre de choses aux futurs metteurs en scène, c'est-à-dire les oblige à regarder ces mouvements, ces regards,
avec les dialogues.
Essentiellement avec les dialogues, il y a quelques indications, mais c'est assez réduit. Alors, il y a des récits qui présentent Marivaux travaillant avec une des principales actrices du théâtre italien, hein, Sylvia. Lui-même fait quelques remarques sur ce jeu des acteurs italiens et sur, au fond, leur origine italienne donne une certaine étrangeté à leur discours. Et c'est plutôt quelque chose qu'il apprécie parce qu'il ne veut pas que une interprétation trop où l'acteur s'identifierait trop au personnage.
Vous dites qu'il met les individus sur scène, qu'il nous fait voir ce qu'ils vivent, et vous dites il ne les lâche pas. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Jean-Paul Sermin?
Alors il ne les lâche pas dans le sens où les personnages sont pris dans une sorte de bouleversement, et donc ils doivent aller au bout de leur expérience. On peut dire qu'ils ne les lâchent pas aussi parce que, puisqu'on parlera du loft tout à l'heure, mais l'auteur ne les lâche pas dans le sens aussi où c'est le... il les donne à observer et il les observe, mais aussi où il construit une situation et... il leur impose des contraintes et il donne à ces contraintes une signification morale, sociale et même politique, c'est-à-dire que les personnages ont l'impression d'une totale liberté, mais en même temps sont pris dans toute une série de contraintes que Diderot appellera après la génération suivante la condition, hein, c'est-à-dire que... nous avons une marge de liberté à l'intérieur de toute une série de ce qu'on appellerait des déterminations, hein, qui sont ensuite l'objet de la littérature du XIXe siècle. Hein. La littérature du XIXe siècle, c'est les déterminations. Alors, Marivaux les fait apparaître par la construction de l'intrigue, la construction théâtrale, et dans ce sens-là, les personnages sont à la fois libres et contraint, libre et dominé. Il y a la contrainte des parents, il y a la contrainte sexuelle, les rôles masculins, féminins, il y a la contrainte des rangs sociaux, il y a la contrainte de l'horizon politique, etc.
Alors, Marivaux ne nous dit pas, en revanche, comment il fabrique ses pièces, mais il nous donne des indices, et à un moment donné, il prend l'exemple de la peinture pour évoquer son propre travail. Alors, est-ce qu'il construit ses pièces comme le peintre construit son tableau, et qu'est-ce que ça signifierait si c'était le cas?
Alors, il utilise la peinture à l'intérieur même de ses pièces, parce que je crois que, le théâtre de Marivaux, je crois que c'est une chose qui est valable peut-être pour tout grand auteur de théâtre. Il représente des représentations, c'est-à-dire comment les personnages se représentent, se représentent dans le sens de se présentent aux autres, mais se représentent les autres, et il y a une sorte de conflit des représentations, et dans ce sens-là, la peinture peut signifier cette sorte de médiation par les personnages eux-mêmes de leurs propres représentations. C'est dans ce sens-là que j'ai utilisé cette... que j'ai exploité la référence au tableau.
Alors la question de l'action qui se pose régulièrement chez Marivaux, dans ses romans, on l'a vu, il n'y a quasiment pas d'action, on en parlait mardi avec Christophe Martin, mais en revanche, dans les pièces de théâtre, l'action est davantage présente, Jean-Paul Sermin, mais pas forcément comme on l'attendrait. Qu'est-ce que c'est que l'action, justement, chez Marivaux, alors, dans les pièces de théâtre?
Marivaux dit lui-même que l'action est essentielle au théâtre, et puis beaucoup d'œuvres narratives sont inachevées, alors que toutes les pièces de théâtre ont une intrigue bien ficelée, avec une mise en place au départ et à la fin. C'est la fin habituelle de la comédie, c'est-à-dire des couples se forment et bon, certains.
En ça, il est moins novateur que dans le roman.
Je crois qu'il se rend bien compte qu'il ne peut avoir des spectateurs et être sur les grandes scènes parisiennes qu'en se soumettant à cette nécessité de dramaturgique, on va dire, ou dramatique. En même temps, il conçoit l'action de façon assez différente des deux grands courants de la comédie de l'époque. Il y a le courant moliéresque autour des caractères, c'est-à-dire autour de débats de société sur une figure publique, comme le Tartuffe, le libertin, etc. Et puis il y a un autre courant qui le précède, qui est celui de la comédie d'intrigue, donc il y a beaucoup de péripéties, de déguisements, etc., et qui va se transformer de son propre temps avec une comédie sentimentale où il y a beaucoup d'histoires antérieures pathétiques qui viennent affleurer au moment du drame, en quelque sorte. On peut dire que c'est le Loft, où il y a tout le passé qui va ressurgir.
Je vois que tout le monde a envie de parler du Loft.
Oui, voilà.
Et ça va arriver.
Et Marivaux, lui, écarte, pas complètement, mais pour l'essentiel, et les caractères et les intrigues, et va se centrer sur l'expérience, disons, de la formation d'un couple, hein, c'est-à-dire la rencontre amoureuse, parce que pour lui, dans l'amour, au fond, on peut voir la nature humaine, toutes les questions psychologiques, morale, économique,
c'est un miroir
politique
de toute la société, c'est un miroir de que tout, la manière ça dont
ça se concentre,
les couples se forment et se défendent.
Et c'est là où l'individu a le plus de liberté, et donc c'est là où il peut faire quelque chose ou ne rien faire, quelle que soit sa condition, et c'est là où toutes les déterminations, tout ce qu'il appelle les dépendances, sont présentes, et on a une petite chance d'y échapper. Voilà.
Donc l'amour, c'est l'action, ou l'action, c'est l'amour.
Disons la formation du couple, oui. Oui.
Alors, l'espace du théâtre est aussi quelque chose qui vous intéresse beaucoup, Jean-Paul Sermin. Vous avez cette expression des lieux habités. Là aussi, c'est un petit peu la même démarche que celle que vous expliquiez auparavant sur la mise en scène, intégrée par Marivaux dès le moment de l'écriture. Ces lieux habités, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Donc, Marivaux est à une époque où le théâtre, la salle est assez petite, puisqu'il y a même des spectateurs sur la salle, donc on a peu de moyens scéniques au théâtre. Le lieu est un petit peu un lieu indifférencié, hein, dans la tradition du théâtre du XVIIe. Mais Marivaux...
Donc ça peut être n'importe où.
Voilà. Enfin, c'est un lieu dans une maison, dans un hôtel. Enfin. Mais Marivaux va opérer là aussi deux changements. Le premier changement, c'est que, enfin le premier changement, son point de départ, c'est que les lieux, en quelque sorte, entourent le personnage, correspondent à son ancrage social, familial, affectif. On va dire, c'est des lieux habités dans le sens où on est, en quelque sorte, défini par une place dans la société, et cette place, c'est le lieu, c'est là où on est. Et qui a toutes sortes de caractéristiques.
Donc habité, ça veut dire chargé, finalement.
Chargé de tout un entourage affectif, familial, culturel, social, etc. Et il me semble que l'itinéraire des personnages, c'est justement de se libérer dans une grande mesure de cet habitat, en quelque sorte familial, pour acquérir une certaine liberté, une certaine émancipation, et c'est eux-mêmes qui forgent leur propre lieu. C'est eux qui doivent... On doit se créer un lieu dans la société, et évidemment, on peut mettre ça en rapport avec l'émancipation de l'individu et avec le roman aussi, puisque dans ces deux romans, ils présentent des personnages qui quittent, qui n'ont pas d'ancrage familial, qui sont à la rue et qui doivent entièrement se faire leur vie.
Et qui n'ont pas de lieu à eux.
Ils n'ont pas lieu à eux, oui.
Une citation pour terminer de votre livre. Oui. Le changement profond imposé à Marivaux et à sa génération est qu'ils savent, contrairement aux écrivains du siècle de Louis XIV, que leur époque sera appréciée comme un moment historique. Et par là, que les caractéristiques de leur situation sont précieuses du simple fait d'appartenir au présent. Et on a beaucoup insisté sur la modernité de Marivaux, mais cette citation illustre bien le sentiment d'être dans la modernité, et ça c'est très important, qu'avait Marivaux au moment où il travaillait.
Oui, c'est-à-dire que Marivaux s'est engagé au service des modernes, mais au-delà de cet engagement et de cette cause, je crois qu'il est, il appartient à cette génération qui se rend compte que tout moment est historique et que donc le présent a déjà cette conscience de l'historicité
qu'on n'avait pas avant.
Alors toute opposition absolue évidemment est difficile, mais qu'on n'avait pas avant dans le sens où la conscience de l'histoire antérieure se fait plutôt par référence à des modèles comme le modèle de l'Antiquité ou le modèle religieux chrétien, tandis que là, l'homme devient responsable de son histoire chaque génération et chaque écrivain doit saisir ce qu'il y a de propre à une époque. Et donc Marivaux, on a parlé des journaux, le journal c'est au fond un nouveau type d'écriture, de médiation, de conscience qui apparaît à ce moment-là et que l'écrivain doit saisir.
Merci, merci beaucoup Jean-Paul Sermin. On va bientôt retrouver Catherine Henry pour continuer à parler de Marivaux, mais avant cela, allons prendre la température du côté des revues littéraires sur France Culture. Est-ce que vous auriez pris Marivaux comme contributeur à Critique, Philippe Roger, vous qui en êtes le directeur, et maintenant que vous savez, mais vous le saviez déjà, que Marivaux était un grand journaliste de revue?
Ben, je lui aurais cédé la direction, mais...
Vous croyez qu'il aurait été bon?
Ah oui, il aurait été excellent. J'adore les journaux de Marivaux.
Alors, un numéro de Critique de mai dont vous allez nous parler, intitulé « Un seul navire répondra de tout », mais un numéro qui frappe surtout par la grande variété de ses sujets, Philippe.
Oui, mais vous connaissez le proverbe « on met fait ce qu'il te plaît » et beaucoup de livres nous ont plu. Et donc, pour une fois, j'aimerais bien commencer par les varias que je néglige souvent.
Alors, je vois qu'il est question dans vos varias de haine de la littérature. Pourquoi la haine de la littérature, quand même, chez Critique?
Oui, et à la compagnie des auteurs. La littérature est-elle aimée? Nous aimerions bien le penser, vous et moi et quelques autres. Eh bien, pas tant que ça. C'est ce que montre William Marx dans La haine de la littérature. Le compte-rendu de son livre est signé par Alexandre de Vitriste, un jeune et brillant spécialiste de Peggy. Et au passage, je recommande son anthologie « Peggy, mystique et politique ». Il note la multiplication des essais qui protestent contre la dévalorisation de la littérature et son éviction, qui est tantôt brutale, sournoise aussi, de l'enseignement. On peut citer Antoine Compagnon, Yves Citon, Vincent Jouve, Martha Nussbaum, Jean-Marie Schaeffer. Bon, vous voyez que William Marx est ici en bonne compagnie.
Donc c'est la littérature comme peau de chagrin.
Ah, dans l'enseignement, incontestablement. Voici un chiffre. Je l'emprunte à l'excellent livre de Françoise Lavocat qui est sorti le mois dernier, « Faits et fictions ». Aux États-Unis, une directive pour l'enseignement secondaire a réduit la part des textes littéraires à 30% contre 70% aux textes dits « factuels ». Mais partout, y compris chez nous, c'est la tendance lourde, et je dirais presque la tendance grave, mais vous m'accuseriez de parler jeune.
Mais non.
Ce qui intéresse William Marx, ce n'est pas tant la haine pour la littérature des béotiens ou des apparatchiks du système scolaire, c'est la haine de la littérature parmi les clercs, parmi les intellectuels, parmi les gens du livre en somme. Le rappel est salutaire, non seulement la littérature est entourée de gens qui ne lui veulent pas toujours du bien, mais elle a ses ennemis de l'intérieur.
Et alors, vous publiez également une étude sur Michel de Certeau, qui est mort il y a 40 ans, moins actuel, donc.
Oui, ou assez inactuel pour rester d'actualité. La prise de parole, n'est-ce pas? Quoi de plus actuel? C'est le titre de son livre sur mai 68, qu'il a écrit en 68. Quitte à faire du Certeau sans le savoir, autant le lire. François Trémolière nous guide dans le dédale de la Fable Mystique 2, c'est un volume posthume, édité par Luce Giard, paru un quart de siècle après la Fable Mystique, qui devient le tome 1 en quelque sorte. Michel de Certeau, c'est la préférence donnée à l'écriture, c'est son mot contre l'œuvre, c'est l'inachèvement, non pas comme échec mais comme exigence, pour maintenir l'œuvre ouverte, comme dirait ou comme disait Umberto Eco, auquel d'ailleurs nous rendrons hommage en juin. Et en cela, il nous reste très présent.
Et vous viendrez nous en parler. Et la littérature, celle qui se fait, Philippe?
Elle se fait de plus en plus, je crois, à la lisière des genres. C'est là que se tient Gérard Massé, par exemple, écrivain insolite évoqué par Laurent de Manze. Gérard Massé était pris des cabinets de curiosité, mais plutôt de leur esprit que du résultat, car c'est vrai, entre nous, les cabinets de curiosité avec leur collection de monstres et tous ces fœtus en bocaux, ça peut devenir pesant. Rien à craindre avec Gérard Massé et ses pensées simples. Attention, ce ne sont ni des passés simples, ni des pensées compliquées, des pensées simples au pluriel, c'est le titre de ses livres.
Et puis un mot de votre dossier, de son titre énigmatique, donc « Un seul navire répondra à tout ».
Marielle Massé l'a emprunté à Henri Michaud. C'est le final, en somme, de son bel article, l'article de Marielle Massé sur « À ce stade de la nuit » de Mélisse de Kerangal. À Lampedusa, dans toute la Méditerranée, des images de navires qui médusent nos regards, des rafiaux de la détresse qui s'efforcent vers les rivages européens. La télévision nous les montre, mais que voyons-nous? Vous vous souvenez d'Hiroshima, mon amour, j'en suis sûr, d'Alain René? « Tu n'as rien vu à Hiroshima », répétait Eiji Okada. D'ailleurs, Duras, qui a écrit le scénario, voulait intituler le film « Tu n'as rien vu ». Et aujourd'hui, que voyons-nous à Lampedusa? Combien de mois, combien de siècles pour voir ce que nous avons sous les yeux?
Et ces bateaux de migrants, vous les associez à d'autres bateaux, les bateaux de l'esclavage?
Oui, dans notre imaginaire, sans doute dans la mauvaise conscience européenne, ces bateaux du malheur croisent les vieilles flottilles de la traite. Pendant la Révolution française, un orateur avait appelé les navires négriers des bières flottantes. Terrible expression. Nous revenons sur la révolte de l'Amistad, cette goélette qui portait le doux nom d'amitié. Elle se livrait encore à la traite en 1839. Une cinquantaine d'Africains qu'elle menait vers l'esclavage se révoltent, s'en emparent, couteau en main. L'historien Marcus Redeker raconte, il n'est pas le premier, mais avec une flamme bien à lui, cette épopée transatlantique, comme il dit, des révoltés de l'Amistad. Redeker montre l'extraordinaire impact des récits qui se sont aussitôt multipliés autour de ces révoltés, des récits qui sont souvent fantaisistes ou empreints de préjugés. Mais au fond, peu importe, ce qui compte, c'est qu'il y a eu des écrivains, des journalistes, des conteurs, des storytellers pour réverbérer ce geste de libération qui a véritablement galvanisé le mouvement abolitionniste américain. Une justification de plus, et non des moindres, je crois, pour la littérature.
Exactement. Merci beaucoup, Philippe Roger. Tout cela et bien d'autres choses dans le numéro de Critique de mai qu'il faut absolument se procurer en librairie. C'est Loana que vous écoutez sur France Culture dans la compagnie des auteurs. Catherine Henry a publié son premier livre en 2003. Il s'appelait De Marivaux et du Loft. Et c'était chez POL. Elle y confrontait le grand dramaturge de la dispute avec la célèbre série de télé-réalité. Et c'est elle que je reçois dans la seconde partie de cette compagnie des auteurs sur France Culture, bien entendu.
Il y a 18 ou 19 ans, que que la dispute dont je parle s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et dura très longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe, et qui n'était pas de votre sentiment, résolu de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. Quatre enfants au berceau, deux de votre sexe et deux d'une autre, furent portés dans la forêt où il avait fait construire cette maison exprès pour eux, et où chacun d'eux fut logé à part, et où actuellement même il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Mesrou et sa sœur qui les ont élevés et qui ont toujours eu soin d'eux et qui ont été choisis de la couleur dont ils sont, afin que leurs élèves en fussent plus étonnés quand ils verraient d'autres hommes. Nous allons, pour la première fois, leur donner la liberté de sortir de leur enceinte et de se connaître.
Bonjour Catherine Henry.
Bonjour.
La juxtaposition de cette musique et de cet extrait montre peut-être comment, telle l'huile et l'eau, ces deux choses se mélangent assez mal.
Oui.
Alors, vous...
Il ne s'agit pas de mélange d'ailleurs.
Il ne s'agit pas de mélange, mais on va en parler. Vous avez donc publié en 2003 ce livre, Marivaux et le Loft, dont la centralité se situe sur la dispute dont on vient d'entendre ici, un extrait mis en scène par Chéreau. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous résumer l'intrigue de la dispute, car c'est très important pour comprendre votre propos.
Oui, je voulais simplement dire que dans ce livre de Marivaux et du Loft, la dispute n'occupe qu'une toute petite partie, puisqu'il s'agit d'une série d'essais sur la transmission de la littérature, justement.
Alors, vous l'avez choisi comme titre, ce qui est...
Je l'ai choisi
important.
Comme titre, oui, parce que ça me paraissait important, parce que, bon... Alors, ce que nous venons d'entendre, c'est la deuxième scène. Dans la première scène, nous avons un prince et Hermione qui discutent. Alors, discuter au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle une dispute, précisément. Alors, quel est l'objet de cette dispute? C'est qui le premier de l'homme ou de la femme a été infidèle en amour? Alors, on sent bien dans cette scène, même si ce n'est pas très clair, c'est un des aspects peu clairs ou ambigus de cette pièce, quelles sont les relations entre le prince et Hermione. Le prince aime Hermione et le lui dit, mais Hermione semble réticente à accepter cet amour. Et on sent bien que cette réticence vient du fait... du sujet, justement, de cette dispute, c'est-à-dire qu'elle craint l'infidélité des hommes. Et donc, le prince, dans cette scène 2 que nous venons d'entendre, lui explique que, il y a 18 ans, la même dispute a éclaté à la cour et que son père a décidé de faire cette expérience, c'est-à-dire d'enfermer 4 enfants séparément. Et ils vont assister pour la première fois à la sortie de ces 4 enfants qui ont été élevés séparément. Et à leur rencontre.
Donc c'est tout de même assez terrible.
C'est-à-dire assez
qu'on
terrifiant.
Prend quatre
oui.
enfants dont on se sert
Bien
comme
sûr.
Des cobayes de
Absolument.
Laboratoire.
Il s'agit d'animaux de laboratoire. Alors cette expérience, je pense que Marie Maud ne l'a pas totalement inventée, puisque, bon, il y a deux occurrences, me semble-t-il. Il y a d'abord Hérodote qui nous raconte que le pharaon Psamétique a fait une expérience avec deux enfants, puisque lui aussi, enfin lui voulait savoir quelle était la première langue du monde. Donc il les a fait élever. Par un berger qui leur amenait une chèvre, je crois, et qui buvait du lait. Et donc, le premier mot qu'il prononcerait serait la première langue du monde. Et puis ensuite, je crois que cette expérience a été refaite par Frédéric II, l'empereur Frédéric II, pas le roi de Prusse, mais l'empereur Frédéric II, et lui aussi voulait savoir quelle était la première langue du monde. Alors, on voit bien que, évidemment, l'enjeu ici est moindre. Il ne s'agit pas de savoir quelle est la première langue du monde, mais qui de l'homme ou de la femme a été le premier infidèle. Donc l'enjeu semble a priori plus léger, mais pour cet enjeu léger, l'expérimentation est effectivement lourde, hein, puisqu'il s'agit d'une séquestration pendant 18 ans. Alors on voit bien aussi qu'on est vraiment dans le 18e siècle, c'est-à-dire qu'on se pose la question des origines. Et au XVIIIe siècle, on a cessé de se poser la question des origines. Rousseau se pose la question de l'origine des langues et de l'origine de l'inégalité. Vico se pose la question de l'origine du droit, de l'origine de la poésie. Montesquieu se pose la question de l'origine des États. Alors, l'origine de l'infidélité, ici, c'est bien ce sujet-là.
Donc, Marivaux est moins choquant, finalement, à l'époque qu'aujourd'hui, ou il cherche quand même à choquer ?
Ah, ça, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que cette pièce a été un échec. Alors, est-ce que ça a été un échec parce qu'elle était choquante? Je ne sais pas.
Et donc, un jour, on décide évidemment de faire sortir ces enfants de la cachette où ils étaient chacun confinés et de les faire se rencontrer. Et là, que se passe-t-il?
Alors, on va d'abord faire sortir chacun séparément. Alors, bien sûr, Marivaux ne va pas faire sortir les quatre enfants. Il va en faire sortir la première, Aiglée. Et la première rencontre qu'elle va faire, c'est avec elle-même. Puisqu'elle va voir un ruisseau, et elle va donc se voir dans un ruisseau, ce qui suppose qu'il n'y avait pas de glace, de miroir, dans l'endroit où elle a été élevée, et qu'elle ne sait donc pas ce que c'est que ça. Et sa première rencontre, c'est la rencontre avec elle-même, et c'est une scène étonnante, puisque cette rencontre va aboutir à une sorte de passion amoureuse d'Aiglée pour elle-même. C'est-à-dire que c'est une scène de narcissisme tout à fait conforme à ce que Lacan appelait après le stade du miroir, hein, puisque en plus Carise est là, qui est là et qui joue un petit peu le rôle de la mère et qui lui dit mais oui, mais c'est vous que vous voyez, et Aiglée va comprendre qu'elle est belle. Bon, et cette scène est évidemment fondamentale puisque ensuite toutes les deux filles qui vont finir par se rencontrer. On sent assez bien que Marivaux les décrit comme, au fond, d'abord attirés par leur amour-propre, leur coquetterie, leur vanité. Et donc, c'est fondamental. Alors, une fois que Aiglée a pris conscience que c'était elle-même, qu'elle a eu cette première rencontre amoureuse avec elle-même, Marivaux va faire intervenir un garçon, Azor, et ça va être la première rencontre entre Azor et Aiglée, qui va être effectivement une rencontre qu'on peut imaginer comme une rencontre amoureuse, ou au moins désirante. Puis ensuite, il va les personnages de Carise et Mesrou, qui sont donc les espèces de, on va dire, d'intermédiaires entre le prince et les enfants, vont faire sortir le jeune garçon. Elle va rencontrer l'autre jeune fille, ce qui va provoquer une scène de jalousie. C'est-à-dire qu'elles vont presque en venir à se crêper le chignon.
Et là, on se rend compte qu'il est très difficile d'avoir une réponse à la question qui est posée au départ, parce que ce qui domine, c'est finalement l'indécision. C'est-à-dire que les personnages ne savent pas très bien ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils aiment plutôt un tel? Est-ce qu'ils aiment plutôt l'autre garçon, l'autre fille? Donc il y a cette idée de l'inconstance déjà.
Oui, alors de toute façon, il n'y aura pas de réponse à la question à la fin. La pièce reste ouverte, on en reparlera, mais il n'y a pas de réponse à cette question. Mais on voit assez bien que Marivaux met en scène aussi la différence de comportement entre les hommes et les femmes. Mmh. Les femmes vont être inconstantes ou infidèles pour des raisons de narcissisme, c'est-à-dire qu'évidemment, Aiglée veut être aimée, mais elle veut être aimée des deux garçons.
Alors que les garçons, quand ils se rencontrent,
alors
ils se serrent la
main.
Alors
que les garçons, quand ils se rencontrent, voilà, c'est des bons copains, ils veulent manger ensemble, etc., etc. Mais en même temps, les garçons vont être aussi inconstants. Alors avant, après, on ne sait pas, enfin, en même temps, etc. Parce qu'ils ont un désir qui est très différent, qui est un désir de possession. C'est-à-dire que c'est mon Aiglée. Voilà. Donc, Marivaux met en scène aussi ça.
Alors maintenant qu'on a raconté la dispute, on va raconter votre histoire à vous, une histoire qui commence donc au début des années 2000, il y a 15 ans. Hein, donc, oui. On fête les 15 ans du Loft, c'est important de le signaler, qui commence donc avec la mise à l'antenne sur M6 de cette série de télé-réalité. Vous-même, à l'époque, vous êtes professeur de français et vous êtes étonné de voir à quel point tous vos élèves sont absolument engouffrés dans cette histoire de Love Story.
Ils ne parlent que de ça dans les couloirs. Il y a une sorte, et ça va jusqu'à l'identification, puisque j'ai certains élèves qui sont traumatisés par l'exclusion du premier garçon du loft.
Aziz.
Aziz, voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'avais été très effrayé par ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on n'enseigne plus que 30% de textes littéraires. Bon, moi, j'allais dire ma politique, c'est pas ma politique, c'est ma conviction, c'est qu'il faut enseigner la littérature. Bon, et qu'il faut l'enseigner vraiment. Ça veut dire aussi que on ne peut pas simplement, d'abord parce que je ne suis pas universitaire, l'enseigner comme selon l'histoire littéraire ou du seul point de vue de l'histoire littéraire. On ne peut pas l'enseigner comme si c'était une œuvre de musée, mais qu'il faut d'une façon ou d'une autre essayer de faire que la transmission de cette œuvre littéraire, enfin de ces œuvres littéraires, rencontre quelque chose de l'histoire des adolescents auxquels je m'adresse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce rapport entre le passé et le présent. Alors il ne s'agit pas d'instrumentaliser les textes littéraires d'autrefois pour parler d'aujourd'hui. Je ne vais pas instrumentaliser Marivaux pour parler du Loft. Ce n'est pas ça du tout.
Et vous partez du Loft pour montrer que Marivaux est actuel, c'est ça ?
Pour montrer peut-être que Marivaux est actuel. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi du passé pour parler du présent. C'est fondamental. Et que Marivaux peut nous faire réfléchir, peut-être plus intelligemment qu'on l'a fait à l'époque, sur la question du Loft, qui est quand même... Alors évidemment... C'est très clair que si j'ai fait ce rapport entre le Marivaux et le Loft, c'est pour un certain nombre de ressemblances, expérience de séquestration, expérience qui peut aller jusqu'au sadisme. Hein. Après tout, dans le cas du prince, séquestration de 18 ans. Hein. Le Loft, après tout, c'était jamais que 3 mois, je crois, ou moins, je ne sais pas. Expérience de séquestration, expérience de voyeurisme, puisque le prince et Hermione vont assister à ces rencontres amoureuses entre les enfants, les adolescents.
Et il y a même l'un de vos élèves qui va dire un jour, mais en fait, Hermione, c'est M6.
Voilà.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça
parce
veut dire ?
Parce que ils ont très bien compris que c'était aussi une expérience de séduction. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que si le prince donnait ce spectacle à Hermione, c'était pour la séduire. De la même façon que M6 veut évidemment séduire son public de spectateurs. Donc il y a un certain nombre de points communs qui sont au fond des points communs relativement intéressants parce qu'ils nous montrent comment ce spectacle du XVIIIe siècle, qui avait évidemment d'autres enjeux au XVIIIe siècle, puisqu'il s'agissait de l'enjeu philosophique de quelle est l'origine de l'inconstance, etc., etc., peut nous permettre aujourd'hui de regarder ou de lire ou de comprendre peut-être autrement cette émission de télévision.
Je vous propose d'écouter ce que dit Luc Bondy du Contemporain dans Marivaux et je vous ferai réagir juste après.
Quand j'ai mis en scène Marivaux en allemand, c'est pour ça que c'était très bien de le faire en français, c'est que j'ai considéré ça comme un auteur contemporain toujours. Comme on peut dire aussi, comme on appelle Shakespeare notre contemporain. Yann Coddy, parce que sur les thèmes de Marivaux, je l'ai vu d'ailleurs quand j'ai amené mes enfants là, que ça touche beaucoup parce que ça parle de la décision qu'ont les adolescents à formuler leurs sentiments. Est-ce qu'ils savent déjà ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils découvrent? Et la découverte que vivent des jeunes. Jusqu'à ce que quelqu'un dit à ces deux, mais là, il y en a un qui est jaloux, l'un est amoureux. La définition qu'on donne aux choses, avant, les jeunes ne savent pas encore. Ils savent quelque chose, mais ils ne savent pas encore mettre le mot dessus. Et Marivaux a toujours eu ce thème. Et ça, j'ai découvert très tôt. J'ai découvert aussi que toujours, Marivaux racontait que les gens, que tout le monde, on pouvait manipuler tout le monde. Et que les sentiments, on pouvait les inventer d'une certaine manière, on pouvait les suggérer et on pouvait les perdre. On pouvait d'une certaine manière métaphorique en mourir. C'est-à-dire que les fins des pièces de Marivaux, on dirait que les couples, les jeunes, tous ceux qui ont travaillé à cette cuisine ou à cette chimie interactive en sont épuisés et qu'à la fin, il reste un vide.
Est-ce que vous diriez que l'expérience que vous avez menée avec vos élèves leur a permis de mettre des mots grâce à Marivaux sur ce qu'ils voyaient à la télévision sur le Loft?
Je l'espère.
Et sur leurs sentiments à
oui,
eux aussi.
Je l'espère. Sur leurs sentiments à eux, je l'espère aussi, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Sauf que c'est évident, cette question du langage, elle est fondamentale quand on parle de Marivaux. Et dans cette pièce, donc dans la dispute, elle est d'autant plus fondamentale qu'on a deux langages. On a d'une part le langage, alors très marivaudien, enfin je ne sais pas comment il faut dire, du rapport entre le prince et Hermione. Et puis, on a le langage de ces adolescents qui sont, au contraire, très démunis de langage. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas,
donc les entre adolescents
guillemets,
enfermés, c'est ça ?
Voilà, ceux qui sont enfermés, ils ne peuvent pas, entre guillemets, marivauder, précisément. Parce qu'ils n'ont pas les mots, tout simplement. Ils manquent de mots, ils sont très démunis de langage. Et donc, comme ils sont très démunis de langage, ils parlent avec leur corps. avec les mots de la sensation. J'ai froid, j'ai chaud, ma main veut votre main. Enfin,
si nous allions dans la piscine.
Voilà, voilà, ils sont démunis de ce langage, et donc dans cette pièce, cette question du langage est particulièrement intéressante. Alors, il y a la question aussi de la cruauté dans cette pièce qui se pose avec beaucoup d'acuité. Parce que, évidemment, cette pièce, on a beaucoup reproché à Chéreau d'avoir fait une mise en scène un peu sadienne. Mais enfin, c'est vrai que si on regarde la fin, c'est quand même une fin très ouverte. Quand le prince dit à la fin qu'on les place suivant mes ordres, alors bien sûr, Chéreau s'empare de cette fin et fait tuer les cobayes à la fin. Mais c'est vrai que c'est une fin extrêmement cruelle, parce que à minima, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va fabriquer les couples?
On peut peut-être dire quand même, puisqu'on arrive vers la fin de cette émission, comment vos élèves vont réagir, et ils vont bien réagir à cette expérience, et c'est même d'eux-mêmes qu'ils vont voir des similitudes entre Le Loft et Marivaux, c'est même d'eux-mêmes qu'ils vont, oui. Pour cinq d'entre eux, je crois, oui, si oui. Je me souviens bien, oui. Qu'ils vont faire le lien.
Oui, oui, ils ont fait le lien très vite. Mais moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé, alors évidemment pas ce jour-là, enfin parce que j'ai repris cette pièce après, je l'ai retravaillée un petit peu autrement au moment où Le Loft était enfin un petit peu passé, disons. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette pièce est tombée. Pourquoi, ce qu'on disait, tomber à l'époque, je crois. Pourquoi cette pièce n'a été représentée qu'une fois en 1744?
Trop en avance.
Alors, trop marginal, trop en avance, trop hors des clous, on va dire, pour parler vite. Et pourquoi cette pièce qui est tombée, qui n'a, je crois, jamais été reprise, sauf peut-être une fois dans les années 30, enfin je ne sais plus exactement, pourquoi est-ce que cette pièce, tout d'un coup, après la mise en scène de Chéreau, est devenue une des pièces les plus jouées de Marivaux? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que, à partir des années 70, la dispute devienne cette pièce qu'on joue tellement? Et bon, alors j'ai un peu des là-dessus, mais il y a la question, me semble-t-il, évidemment, de la surveillance. Enfin, je veux dire, c'est quand même le début de Big Brother, etc. Et cette pièce met en évidence cette espèce d'enfermement expérimental et de voyeurisme. Bon, mais il y a aussi une autre question, sans doute, qui est peut-être plus subtile, qui est la question de la place de l'inné et de l'acquis dans nos comportements, puisque c'est ça aussi qui est recherché dans cette pièce.
Et Marivaux pose la question très brutalement, comme on n'oserait plus la poser aujourd'hui.
Voilà, je veux dire, est-ce que les femmes naissent infidèles, ou est-ce que ce sont les hommes qui naissent infidèles, ou est-ce que c'est une question de société? Or, cette question de l'inné et de l'acquis, elle a été reposée par exemple la psychiatrie dans les années 70. C'est-à-dire que dans les années 70, les Américains commencent à dire il y a un gène de la schizophrénie. Et ce n'est pas l'histoire de l'individu qui explique la schizophrénie. Et donc, cette question-là de l'inné et de l'acquis, elle est reposée dans ces années-là. Puis il y a peut-être une dernière chose aussi, me semble-t-il. C'est la mise en abîme. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, aujourd'hui, enfin, depuis les années 70, on est quand même fascinés tous par la mise en abîme. Et pourquoi? Parce que évidemment, c'est une pièce, c'est une
mise en abîme, c'est la pièce dans la pièce, puisqu'on regarde agir les enfants entre eux.
Et au fond, la mise en abîme, ça appuie là où ça fait mal. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de s'interroger. Dans cette pièce, Marivaux s'interroge sur ce que c'est que le théâtre, sur ce que c'est que le spectacle.
Merci beaucoup, Catherine Henry. À 15h54 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose d'entendre des textes de Patrice Delbourg, poète qui publie le recueil Solitudes en terrasse au Castor Astral, dont sont extraits les textes, justement, que vous allez entendre.
Bonjour. Oh, ce que ça peut être crampon, 3 minutes, vos 3 minutes de poésie, mais laissez-moi parler. On était parti faire la tournée des Grands Ducs avec le dénommé poète Patrice Delbourg. C'est à peine si on a commencé depuis lundi. 6 bistrots. Voilà, 6 adresses smoke. On aurait de quoi vous remplir, moi, 3 semaines d'émission, nous autres. Avec ces solitudes en terrasse. C'est paru au Castor Astral. Non, c'est pas un rat, c'est une édition de poésie. Les gens aux terrasses des grands boulevards s'empilent comme des vertèbres, au café français, aux petits riches. Les jeunes filles ont des orages plein les poches. Mille bouches en cœur commentent la crise. Bientôt plus de pain ou fournis. Les enfants de tziganes s'embarquent pour nulle part. La fin du monde s'affiche pour demain. Peu lui importe, les affaires de fringale, il n'y connaît rien. Son garde-manger est rempli, sauterne à discrétion. Le prince des tréteaux se sent immortel. Sacha Guitry, en jabot et dentelle, se délecte à la criée de sa posture de maroufle, à aucun prix engagé pour la cause des peuples, jamais comptable d'un collègue dans la panade. Il trinque au vater, toujours occupé. Les vater, où ce que c'est? Ah ben justement, on y va avec Eugène Guivic, le breton qui est comme couvert d'algues et de goémons. Pissotière verdâtre, bouillonnée par la fleur de chlore, mèche d'étoupe en bataille, œil chassieux, pommadage et coulissier, la gueule en tirelire, regretter le bon temps du music hall quand les derniers consommateurs en fraude gardaient l'air de chrysanthème tardif sur d'antiques trépieds atteignant banco. Au fond des écuelles d'étain, profusion d'olives du Péloponnèse, semblable aux anus noirâtres des chiens de Manchon, avec son air pointu d'instituteur laïque, il se récite quelques terraqués d'Eugène Guivic. Le Pékin aime ses baladins sevrés à l'opium qui ne savent écrire que maigre. Son diabète rampant acquiesçait à cette probité. Certes, rester vivant en ces temps carboniques lui apparaissait comme une varape escarpée entre vermouth et barbiturique. Et nous terminons la tournée avec Jean Cocteau. Asphyxiante odeur de vins et de fricots qui se mêlent aux volutes des scaferlati, pas dans le timbre de la voix la plus légère indication d'une quelconque solidarité, sur le terrain avare et sec de la convention, Jean Cocteau se reverse une lichette de saké pur, se grille sous le coup de quelques blinis. Il était de notoriété publique qu'il avait l'alcool petit, la générosité en dedans et la cuir mesquine, pire que René Char, greffier solaire acrimonieux. La plupart des poètes moutardiers, Rodomont lauréat des académies florales, ne savent plus boire en bon compagnonnage. Pas la moindre frêle émotion de la carcasse, pas une suée fraternelle en haut du front, rien, hélas, du brave stéréotype de l'aimable ivrogne. Donnez-nous tous les riants saturniens du monde. Épargnez-nous un seul et maigre Vini.
C'est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé qui lisait des textes de Patrice Delbourg qu'il publie en ce moment au Castor Astral sous le titre « Solitudes en terrasse ». Et c'est ainsi que s'achève le dernier numéro de la Compagnie des auteurs pour ce qui est de notre série Marivaux. Merci beaucoup Jean-Paul Sermin. Je rappelle votre essai Marivaux et la mise en scène publié en 2013 aux éditions des Jonquières. Et merci également à Catherine Henry. Votre livre Marivaux et le Loft a été publié en 2003 aux éditions POL. Votre dernier roman chez le même éditeur s'appelle « Les prises » et il date de 2010. C'était la Compagnie des auteurs. Merci à Anne-Vanessa Prévost, Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Sophie de Lombarès, à la réalisation Laurence Millet, à la console Pierre Monteil. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de France Culture ainsi que sur iTunes. En attendant demain et l'émission de Mathieu Conquet, Continent Musique. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour parler du prix Nobel récemment disparu, Imre Kertész. Dans un instant, la marche des sciences, Aurélie Dunod.